l'actu des oubliés. Saison 4. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes le 3 juin 2024 et voilà 242 jours qu'une offensive armée génocidaire est en cours dans la bande de Gaza. Alors que nous avons les yeux rivés d'angoisse sur Rafah, le mouvement solidaire pour la Palestine prend de l'ampleur. Vous écoutez l'actu des oubliés et nous parcourons le monde pour les deux derniers épisodes de notre saison 4. Qu'est-ce qui se joue dans cette vague solidaire d'une ampleur inédite? Qu'est-ce que raconte la répression qui tente de la freiner? Et quelles sont les perspectives de peser dans cette situation qui par son horreur nous dépasse? En ligne de mire, ce qu'exprime le philosophe italien Franco Berardi. L'idée que nous pourrions voir la situation actuelle comme un tournant. La séparation entre les forces impérialistes de la suprématie blanche et le reste de l'humanité est désormais irréversible. Depuis le début de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, les démonstrations de solidarité populaire envers le peuple palestinien s'expriment par vagues dans différentes régions du monde, et de manière de plus en plus généralisée. Depuis 8 mois, des centaines de milliers de personnes battent le pavé chaque semaine sur tous les continents. Des grèves ont épisodiquement paralysé certains pays, du Maroc à l'Irak. Mais face à l'indifférence des complices du gouvernement israélien, étudiantes et étudiants ont pris l'initiative de faire monter la pression. Ce qui restera peut-être comme le premier mouvement étudiant international s'organise, porte des revendications en fonction du contexte local et développe des stratégies variées. Le mouvement d'occupation des facs commence aux États-Unis à la mi-avril, plus précisément dans l'université Columbia, située à New York. Quelques heures suffisent à Joe Biden pour traiter d'antisémites les protestataires, oubliant qu'un certain nombre sont juifs et juives. La répression s'emballe. Le 18 avril, l'administration de l'université Columbia ordonne l'arrestation d'une centaine d'étudiants et étudiantes quand d'autres sont expulsés de leur logement universitaire. Le mouvement se poursuit pourtant, et le 31 avril, la police boucle le quartier et fait irruption sur le campement. Étudiantes et profs se barricadent dans le Hamilton Hall, rebaptisé Inns Hall, du nom de cette enfant palestinienne qui est morte en se vidant de son sang pendant que l'armée israélienne tirait sur les ambulances qui venaient pour elle. À la tombée de la nuit, les forces de l'ordre défoncent les portes aux véhicules blindés pour brutaliser les protestataires. L'indignation fait surgir d'autres occupations et les violences se succèdent. En Californie, ce sont des militants d'extrême droite qui attaquent un camp. Dans l'Arizona, la police s'en prend spécifiquement aux étudiantes musulmanes en arrachant leur hijab. Dans l'Ohio, elle fait même usage de taser. Les images de la violence d'État font le tour du monde, qui constatent tout ce que le prétendu pays de la liberté est prêt à faire pour que le génocide puisse perdurer. Les milliers d'arrestations n'y feront pourtant rien. À chaque fois que l'État tente d'arracher la résistance, elle refleurit ailleurs. The people they won't leave, what is threatening about divesting and want a peace. The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. C'est que le mouvement d'Encampment, comme il a été nommé outre-Atlantique, n'illustre pas seulement l'indignation face aux souffrances d'un peuple innocent. D'abord, il revendique sa parenté avec celui qui s'opposait à la guerre du Vietnam en 68, dans un contexte de lutte antiraciste et pour l'égalité civique. À Columbia, il s'assume aussi héritier d'une autre vague d'occupation, moins connue. En 1985, étudiantes et étudiants s'élevaient contre la gentrification du quartier voisin d'Harlem et pour le boycott de l'Afrique du Sud, alors sous régime d'apartheid. Lutte victorieuse sur les deux plans, puisque l'université abandonnait son projet immobilier à Harlem et rompait ses liens avec l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est le discours anticolonial qui imprègne la résistance pro-Palestine. Et hasard du calendrier, on commémore les 4 ans de l'assassinat de George Floyd par la police et les slogans de Black Lives Matter viennent se marier au Free Palestine, lancé dans les rues de New York et de Minneapolis. En pleine répression, les étudiantes et étudiants affirment ne pas vouloir réduire leur lutte à une question de liberté d'expression, mais faire du soutien à la Palestine le symbole de l'émergence d'une nouvelle vague anti-impérialiste. Et c'est ce qu'induit la première des revendications, imposer aux universités de rompre avec les entreprises qui sont engagées dans l'économie israélienne, et en particulier dans la colonisation des territoires palestiniens. Le mot d'ordre « disclose, divest and repair », divulgue, désinvestit et répare, porte à lui seul une coloration décoloniale. Il s'agit aussi de rappeler que Gaza était l'endroit qui concentrait le plus d'universités sur la planète. 12 universités pour 2 millions d'habitants et d'habitantes. Toutes délibérément attaquées par l'armée de Netanyahou. Des centaines d'écoles gazaouis, plus une seule ne fonctionne. À travers ce génocide, c'est une culture, un savoir que l'on cherche à faire disparaître. Il est donc du devoir des universitaires de se lever contre l'État colonial qui veut conquérir, soumettre, silencier. On exige alors d'ouvrir gratuitement les facs à des étudiants et étudiantes gazaouis. On réclame le déblocage de fonds pour financer la reconstruction des instances éducatives dans l'enclave. C'est la teneur de l'une des premières victoires du mouvement à l'international. À Lausanne, en Suisse, la direction de l'université a accepté de mettre en place un conseil d'experts veillant à l'éthique et à l'intégrité des partenariats mis en place. Elle s'est engagée à renforcer son soutien aux chercheuses et étudiantes palestiniennes et à mettre en place un programme d'aide à la reconstruction des facultés à Gaza. Car à l'étranger, la tache d'huile s'étend. D'abord en France, comme cela avait été le cas en avril et mai 68. Sans surprise, une répression tout aussi brutale s'attaque au mouvement de solidarité. Là non plus, elle ne peut entamer la détermination. Alexis Taïeb déclarait par exemple en sortant de garde à vue.
Dans les universités, ils sont en train de banaliser la présence de keufs. 88 étudiants en garde à vue, c'est un scandale. C'est extrêmement grave, faut pas qu'on laisse passer cette répression-là en parallèle dans le monde de la recherche, y compris. Ils essaient d'instaurer une chape de plomb sur des chercheurs. Il y a des conférences de spécialistes du Moyen-Orient qui ont été annulées. Il y a des chercheurs qui ont été convoqués par le CNRS pour se prendre des coups de pression pour pas qu'ils s'expriment sur ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Et de ce point de vue-là, moi je suis extrêmement fier de m'inscrire dans ce mouvement international qui est en cours, parce qu'aujourd'hui il y a plus de 100 universités aux États-Unis qui sont mobilisés.
Depuis, une large partie de la planète universitaire est en émoi et des actions ont lieu aux quatre coins du monde. On peut citer Copenhague et Sao Paulo, le Costa Rica ou le Mexique, l'Espagne avec des occupations qui durent comme à Barcelone, l'Italie avec très tôt une première victoire et la rupture des accords avec l'entreprise d'armement Leonardo, partiellement publique et engagée dans l'armement israélien. Le Royaume-Uni, ancienne puissance coloniale en Palestine, connaît des mobilisations massives, alors même que le gouvernement a soutenu l'invasion de Gaza dès la première heure. On se souvient de la marche du 11 novembre qui avait réuni 800 000 personnes à Londres et provoqué la démission de la ministre de l'Intérieur. La violence d'État s'invite également à Berlin, où la tentative d'installation d'un campement à l'Université libre se solde par une intervention violente. L'Allemagne se distingue particulièrement aux côtés de la France dans l'interdiction sans discernement de tout ce qui se rapporte à la Palestine, quitte à envoyer 2500 policiers pour réprimer un congrès, à interdire de séjour en Allemagne l'ancien ministre grec des Finances ou plusieurs professeurs, dont certaines juives, sous prétexte qu'elles aient affiché leur soutien. Au Canada, ce sont les camps d'Edmonton et de Calgary qui sont détruits. Au moins un étudiant est hospitalisé. Et puis à Amsterdam, la police mène un véritable assaut contre la fac, essuie des tirs de feu d'artifice et affronte les occupantes au corps à corps sur les barricades. Ce qui ressort de cette première vague d'occupation des universités, c'est donc la répression sans sommation qui se déclenche dans les pays occidentaux, avec l'argument implacable selon lequel toute opposition à l'offensive en cours est de fait antisémite. En Allemagne, on ne peut plus brandir un drapeau palestinien. En France, on risque la garde à vue en prenant position pour la Palestine. Tous les moyens sont bons pour démontrer que les actions de Netanyahou sont justifiables. D'une certaine manière, la colonisation menée par le gouvernement d'extrême droite israélien se poursuit là, dans les rues de Paris ou sur les campus états-uniens qui résonnent des tirs de flashball et des grenades assourdissantes. La Palestine doit disparaître. Ceux et celles qui font parler d'elle doivent être silenciés. C'est d'ailleurs ce que dénoncent les grévistes des deux grandes universités anglaises, Oxford et Cambridge, dans leur communiqué commun.
Nous refusons d'accepter la complicité de nos universités avec les crimes de guerre commis par Israël contre le peuple palestinien. Et nous ne pouvons supporter la manière dont est justifiée cette campagne de massacre de masse, d'affamement et de déplacement de population. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets, you could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, APAC, Koofi and all the companies. You see we sell fear around the land of the free, but this generation here is about to cut the string.
Cette répression contre les mouvements de solidarité pour la Palestine n'est pas nouvelle. Elle est même récurrente et va en s'accroissant dans la dernière décennie. Cette fois, elle s'applique alors que les intentions génocidaires du gouvernement israélien ne peuvent plus être masquées. Gouvernement en partie composé de personnes qui appellent à l'extermination ou au massacre des Arabes depuis plusieurs années. Ce phénomène de contestation-répression s'exerce en parallèle d'une autre force, portée par des peuples et des gouvernements qui choisissent d'analyser et de dénoncer les crimes de guerre de l'armée israélienne. Dès le 20 novembre, l'Afrique du Sud appelle les instances internationales à arrêter Benjamin Netanyahou. Le lendemain, son parlement vote à une écrasante majorité la fermeture de l'ambassade israélienne dans la capitale Pretoria. Le pays entreprend alors de documenter les intentions génocidaires du gouvernement israélien. Cette enquête donne lieu à la plainte pour génocide auprès de la Cour internationale de justice le 29 décembre. Plainte soutenue par une soixantaine de pays, mais dénoncée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Francesca Albanese, rapporteuse des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, écrit sur X à cette occasion.
Voir des femmes et des hommes africains lutter pour sauver l'humanité et le système juridique international contre les attaques impitoyables soutenues et permises par la plupart des pays occidentaux restera comme l'une des images déterminantes de notre époque. Cela marquera l'histoire, quoi qu'il arrive.
Par la suite, c'est le Chili qui demande une enquête sur les crimes de guerre d'Israël, puis la Colombie qui demande la délivrance de mandats d'arrêt internationaux contre Netanyahou et son ministre de l'Intérieur. L'Algérie, enfin, appelle plusieurs fois à mettre en pratique l'ordonnance de la Cour internationale et soumet un projet de résolution à l'ONU pour mettre fin à l'offensive sur Rafah. Alors pourquoi l'Afrique du Sud? Pourquoi la Colombie et l'Algérie? Selon les mots de l'avocate Adila Hassim, membre de la délégation sud-africaine qui portait la plainte à la CIJ, c'est au nom d'une humanité commune entre ces deux pays dont l'histoire est faite de colonisation et d'apartheid. Le mouvement de solidarité internationale est ainsi profondément lié à la dénonciation du fait colonial. C'est ainsi que, d'une certaine manière, au-delà d'une réaction horrifiée au génocide qui se déroule sous nos yeux, des colonisés de tous les pays semblent s'unir derrière la Palestine. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le génocide à Gaza qui est dénoncé, mais toutes les facettes du colonialisme, à commencer par les expulsions à Jérusalem-Est et par la violence des colons et de l'armée israélienne. En Cisjordanie, la ville d'Hébron est comme en état de siège. Comme l'explique une enquête du Média à l'encontre, les Palestiniens et Palestiniennes qui y vivent ont d'abord subi un confinement total de 2 mois, puis ont été autorisés à sortir 2 fois une demi-heure par jour, avant l'instauration d'un couvre-feu nocturne en avril. Les colons, eux, peuvent sortir librement et à toute heure, alors que le peuple palestinien doit ruser, passer par les toits à l'aide d'échelles pour éviter la surveillance de l'armée. La nuit, les lasers rouges des fusils se baladent sur les fenêtres. Les perquisitions peuvent avoir lieu à toute heure, et les personnes attrapées hors de chez elles sont menottées à l'extérieur du poste frontière et forcées de rester debout toute la nuit avant d'être relâchées. Torture et humiliation sont le pain quotidien, et lorsque l'on essaye de faire entendre aux soldats qu'ils ne respectent pas les lois, ils répondent « La loi et les tribunaux appartiennent au passé ». Le jaillissement du 16 mai, jour de commémoration de la Nakba, est un témoignage de ce que la Palestine représente désormais à travers le monde. Nakba, le mot signifie catastrophe. Il fait référence au déplacement forcé des populations palestiniennes en 1947. Cette année, de la Bolivie à la Nouvelle-Zélande, des Philippines à la Corée du Sud en passant par la Bosnie, des millions de personnes se sont jointes à distance à la marche annuelle de Ramallah, en Cisjordanie. Les manifestations pro-palestiniennes sont particulièrement fournies et animées dans certains pays parce qu'elles s'inscrivent dans une dynamique anti-impérialiste qui résonne avec le contexte local. Asialiste témoigne de la fibre anticoloniale de la population en Asie. Le boycott y est ainsi relativement populaire, non seulement des produits israéliens, mais aussi de toute marque occidentale jugée trop proche du régime de Netanyahou. En Malaisie, un rassemblement de 6 jours s'est notamment tenu devant l'ambassade américaine. Au Costa Rica, le parvis de l'ambassade d'Israël est repeint en rouge au cri de Netanyahou, fasciste, s'étoile terroriste. Au Mexique, les protestataires exigent la rupture des relations diplomatiques avec Israël. Les universités de Mexico et de Guadalajara sont en grève et occupées. Au Chili, un immense drapeau palestinien flotte désormais au fronton de l'université de Santiago, elle aussi occupée. Et en Argentine, le président néo-fasciste Milei met tellement de cœur à soutenir l'offensive israélienne que le soutien à la Palestine est devenu évident pour qui participe aux grèves générales qui secouent le pays. Et c'est encore dans une autre région du globe que la rue a obtenu de son gouvernement la reconnaissance de la Palestine, l'Irlande. À Dublin, les manifestations devant l'ambassade d'Israël ont été nombreuses. Depuis des mois, la foule y chante « Combien d'enfants devront mourir ?» en référence à la chanson « Bloody Sunday », écrite après le massacre commis à Derry le 30 janvier 1972 par les parachutistes anglais contre une marche pacifique. L'ambassade des États-Unis fait là aussi l'objet d'un sitting de plusieurs jours, tandis que les marches réclament l'arrêt du génocide et la reconnaissance de l'État palestinien. Le Trinity College, prestigieuse université de Dublin, est occupé en mai jusqu'à ce que les étudiants et les étudiantes obtiennent l'arrêt des collaborations entre leur fac et les entreprises israéliennes. 5 jours suffisent. Débloquant des places gratuites pour les élèves venus de Palestine, l'université assure même de sa pleine compréhension de l'occupation du campus et se solidarise avec ses étudiants et ses étudiantes face à l'horreur de ce qui se déroule à Gaza. L'adelphité entre les deux peuples n'est pas nouvelle. Un célèbre grave de Belfast daté de 1983 montre des militants de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, et de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, avec le slogan « Une seule et même lutte ». Alors, lorsque le gouvernement irlandais choisit de reconnaître l'État palestinien en réponse aux demandes de la rue, elle fait référence à sa propre histoire par la voix du Premier ministre. La reconnaissance est un acte puissant politiquement et dans sa valeur symbolique. De par notre propre histoire, nous savons ce que cela signifie. Premier point commun, Balfour, ministre anglais des Affaires étrangères. En 1917, il donne son nom à la déclaration qui autorise la population juive de disposer de la terre palestinienne à sa guise. Mais déjà depuis longtemps, il était surnommé Bloody Balfour, Balfour le sanguinaire, par les résistants irlandais pour les crimes coloniaux commis en son nom. À cette époque, peuples irlandais et palestiniens souffrent de la même police coloniale, les Black Entents. Certains officiers sont même remerciés de la répression sanguinaire exercée en Irlande en se voyant offrir des domaines coloniaux en Palestine et participent à la répression des manifestations palestiniennes contre les expropriations dans les années 20. Il est intéressant par ailleurs de constater qu'à Cambridge, en Angleterre, le portrait de Bloody Balfour, affiché sur les murs, a été lacéré par des étudiants le mois dernier, puis retiré par la direction de l'université. People held responsible for their actions. Until then, we gotta stay active. We need change, that change needs to be data-driven. Accurate, comprehensive, and since we the victims, we deserve a voice in day-to-day decisions. And we can dig these generations out of these grave conditions. Au nom des 14 000 enfants morts à Gaza à ce jour, voici donc l'occasion, inédite au moins dans son ampleur, de voir s'allier deux jeunesses autour de la diaspora palestinienne. D'une part, la jeunesse en lutte de peuples opprimés, anciennement colonisés et encore actuellement pillés par le néocolonialisme industriel, et d'autre part, cette frange de la jeunesse occidentale dégoûtée des agissements de ses propres gouvernements. C'est aussi là que l'on retrouve la jeunesse juive, présente conséquemment dans les cortèges et les occupations. Les organisations Not in Our Name, pas en notre nom, ou Jewish Voice for Peace, sont particulièrement impliquées. Les pancartes Juifs pour une Palestine libre et les banderoles associant les drapeaux des deux peuples foisonnent. Dans les camps de Columbia ou de Cambridge, fleurissent même des drapeaux israéliens. Un étudiant juif de Columbia, arrêté par la police, explique ainsi.
Nous avons choisi d'être arrêtés dans le mouvement de libération palestinienne parce que nous sommes inspirés par nos ancêtres juifs qui se sont battus pour la liberté il y a 4000 ans. Lorsque la police est entrée dans notre campement, nous avons serré les bras et avons chanté des chansons de l'ère des droits civiques que nombre de nos ancêtres entonnaient dans les années 60. Nous appartenons à la tradition de l'activisme juif progressiste qui a œuvré au-delà des différences raciales, sociales et religieuses pour transformer nos communautés.
David Hurst résume dans Middle East Eye. Les juifs parmi ceux qui occupent sont horrifiés par ce qui se fait en leur nom. Horrifiés par la façon dont leur religion a été transformée en apologie du nettoyage ethnique. Horrifiés par la façon dont leur héritage fier et douloureux a été réduit à un permis de tuer. Horrifiés par le pouvoir exercé par Israël sur le Congrès américain, le Parlement britannique et tous les grands partis européens. Jack, de l'université de Swansea, rappelle ainsi que les accusations d'antisémitisme sont une stratégie pour détourner le regard de la question coloniale et qu'à la racine des actes génocidaires de l'État israélien se trouve l'impérialisme occidental. Eva, étudiante et occupante à l'université d'Édimbourg en Écosse, le rejoint.
Les camps ne sont pas antisémites et le mouvement pro-Palestine n'est pas antisémite. Ce qu'Israël fait, elle ne le fait pas au nom du judaïsme, mais au nom du colonialisme. Et pour le compte des nations occidentales qui maintiennent de cette manière leur hégémonie au Moyen-Orient et poursuivent leur exploitation de cette région du monde.
Malgré les tentatives de silencier la solidarité et les véritables raisons de ce génocide, voici que les jeunes de tous les pays se mettent à clamer tout haut ce que pensent tout bas un certain nombre de peuples. Avant cela, dès le mois de janvier, le journal Afrique 21 écrivait déjà
« Appelez cela comme vous voulez, la fin du vieux monde ou le réveil des Suds, une chose est certaine. La planète est en train de basculer dans un nouvel ordre dont les contours restent flous, mais dont on sait déjà qu'il marquera la fin de l'hégémonie de ce que l'on appelle l'Occident. Ce que l'on sait, c'est que l'Occident est définitivement tombé du piédestal sur lequel il s'était lui-même placé, au nom de valeurs qui, en réalité, ne s'appliquent qu'à celles et ceux qui en sont issus ou qui lui ont prêté allégeance.
Israël est en effet une sorte d'antenne coloniale de l'Empire occidental au Moyen-Orient. La France, par exemple, fut son premier fournisseur d'armes entre 1948 et 1969 parce qu'elle comptait sur l'État israélien pour conserver son influence dans la région, après avoir dû accepter l'indépendance de la Syrie puis du Liban. Révolution permanente rappelle ainsi.
Depuis sa création en Palestine par les mains de l'impérialisme, l'État colonial n'a cessé d'être armé et financé par ses pères fondateurs, mais il a également rendu l'appareil à ses plus proches soutiens dans un mouvement de boomerang impérial. Le centre impérialiste, la France, l'Allemagne, les États-Unis, encouragent le développement de techniques et de dispositifs de contrôle colonial vers la périphérie pour ensuite les réutiliser une fois leur efficacité éprouvée à l'intérieur de ses propres frontières.
La théorie du boomerang impérial est la thèse selon laquelle les gouvernements qui développent des techniques répressives pour contrôler les territoires coloniaux finiront par déployer ces mêmes techniques contre leurs propres citoyens à l'intérieur de leurs frontières. Et c'est ce qu'il s'est passé par exemple pour le flashball. Si c'est d'abord en Irlande du Nord que les balles de caoutchouc ont été utilisées pour réprimer les révoltes, elles sont ensuite, d'après les recherches de Mathieu Rigouste, expérimentées contre les Palestiniens et les Palestiniennes dans les territoires occupés. Ce n'est qu'ensuite qu'elles sont ajoutées à l'arsenal du maintien de l'ordre contemporain via l'invention du LBD en France dans les années 90. Et cet échange de bons procédés est évidemment infini. En 2022 déjà, Contre-Attaque explique comment la société israélienne Smart Shooter développe un type de flashball automatique basé sur l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on peut constater directement sur le site de l'armée israélienne comment la bande de Gaza est une vitrine officielle de l'armement de l'État hébreu. Auteur d'un essai paru en 2023 sur le laboratoire palestinien, Anthony Lowenstein explique au Carnegie Middle East Center.
Depuis des années, Israël teste et essaie un nombre considérable de technologies d'oppression en Palestine, qui sont ensuite promues sur les champs de bataille tout autour de la planète. Gaza a souvent été considéré comme le terrain d'essai ultime pour les armes de destruction et de surveillance.
Concernant l'IA, Local Call et le magazine israélien 972 nous renseignent sur la manière dont l'intelligence artificielle guide les bombardements à Gaza, à travers le programme Lavender. Les maisons cibles sont identifiées sur la base de comportements suspects des personnes qui y vivent. Une liste noire d'opposants à assassiner est ainsi constituée et l'ordinateur propose aux soldats de tirer. Selon des officiers israéliens eux-mêmes, les subjectivités de l'IA sont traitées comme s'il s'agissait d'une décision humaine, et ce, tout en estimant que le taux d'erreur se situe autour de 10%. À Mediapart, Shir Ever, économiste israélien et dirigeant de la campagne BDS pour l'embargo sur les armes à destination d'Israël, assure
« C'est une guerre gérée par l'intelligence artificielle. Nous devrions vraiment nous demander qui contrôle qui. Le soldat reçoit un tel nombre de cibles à traiter qu'il ne vérifie qu'une chose, le sexe de la cible désignée. Si c'est une femme, il ne peut pas tirer. Si c'est un homme, et qu'on lui indique que le tir peut causer 80 victimes collatérales, il tire quand même. »
Au fur et à mesure des guerres, de la colonisation armée et de la répression des émeutes à Jérusalem, tout un savoir militaire se construit et peut ensuite s'exporter à travers le monde pour le plus grand profit des métropoles centrales de l'Empire et de ses entreprises. Un certain nombre d'anciens soldats israéliens se reconvertit par exemple en marchands d'armes ou en formateurs à l'étranger, dans les favelas de Rio par exemple, et y compris en France à des fins de maintien de l'ordre. Les échanges technologiques sont eux aussi multiples. Thales en particulier a construit un drone sur le modèle d'un drone israélien. Révolution permanente poursuit.
La Palestine est donc un terrain d'essai pour les pouvoirs répressifs de la planète entière. Une terre en dehors du droit international où ils peuvent expérimenter des stratégies et des armes capables d'anéantir et d'opprimer des populations entières. Un laboratoire à ciel ouvert, activement financé par ces mêmes gouvernements qui récoltent ensuite les fruits de la terreur coloniale pour les réutiliser chez eux, sur leur propre population.
Stop arming Israel!
Stop arming Israel!
Stop arming Israel!
Israël est aujourd'hui le plus grand exportateur d'armes en proportion avec sa population. Dans l'ordre des plus gros acheteurs, la Suède, l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Italie. L'agence européenne Frontex, chargée de bloquer l'immigration vers le vieux continent par tous les moyens, a elle-même commandé pour 50 millions de drones Heron pour militariser la côte méditerranéenne. Voilà peut-être pourquoi, comme on le lit encore dans Afrique 21, l'Occident, replet de sa propre hypocrisie et malade de son suprémacisme, ne fera rien pour sauver le peuple palestinien de la folie meurtrière d'Israël. You can't twist the truth, the people out here united. Never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. C'est ainsi que notre destin à tous est probablement lié à celui du peuple palestinien. C'est aussi ce qui fait comprendre que cet élan solidaire ne doit pas retomber, qu'il peut se construire en opposition durable et impacter le réel. C'est pourquoi les appels à étendre le mouvement et à mener des actions plus radicales se multiplient. Yasmine, du Palestine Youth Movement, explique.
Il est important de comprendre ce mouvement comme un travail de fond sur le long terme. Nous avons besoin de construire un pouvoir des étudiants et des travailleuses sur le campus. L'occupation est une tactique utile, mais elle n'est pas plus que cela. Établir un camp n'est pas le but final de ce que nous voulons faire. Nous avons besoin de connecter tout cela vers un mouvement plus large et pour une stratégie disruptive. C'est cette stratégie qui rendra nos demandes réalisables.
26 mai. L'horreur frappe à nouveau alors qu'il fait déjà nuit sur le camp de réfugiés de Barakzat, dans le quartier de Tel al-Sultan. Un bombardement, une déflagration au sol et le feu se propage à toute allure dans la zone surpeuplée de tentes et de bâches en plastique. Un homme hurle, les tentes fondent et dedans les gens fondent eux aussi. Dès le lendemain, des centaines de villes sont le théâtre de marches indignées. Les manifestations monstres s'enchaînent quotidiennement. En Turquie, à Adana, une foule impressionnante envahit les rues, tandis qu'à Istanbul, le parvis du consul israélien est occupé. À Barcelone ou à Madrid, Grenade et Séville, les manifestations d'urgence sont massives, tout comme à Manille, en Tunisie, au Bahreïn ou à Berlin. À Lyon puis à Paris, les périphériques sont envahis et bloqués par les jeunes sonnés par les images qui tournent en boucle. On a sous les yeux un génocide en 4K, comme le confie un adolescent. Au Mexique, mercredi 29, manifestantes et manifestants cernent l'ambassade de l'État israélien et l'attaquent au cocktail Molotov, déclenchant des débuts d'incendie. La police est totalement dépassée et se retrouve à jeter des pierres aux manifestants. Les personnes blessées sont nombreuses des deux côtés. Dans les universités, malgré les moyens déployés, les polices se révèlent incapables d'endiguer le mouvement d'occupation. Aux États-Unis, après le premier choc de la répression au début du mois de mai, la tache d'huile continue de s'étendre. Chaque semaine, de nouvelles universités sont bloquées, des campements expulsés se remontent, et c'est ainsi que les activistes estiment avoir dépassé la centaine d'encampments dans le pays. À Princeton, après le démantèlement d'un campement, des centaines de personnes occupent la cour centrale de la fac, apportent livres, toiles vierges et ordinateurs pour constituer une université populaire pour Gaza. Dans le prochain épisode, nous verrons comment peu à peu les occupations deviennent le lieu d'une effervescence éducative et politique, comment ils s'estiment point de départ pour une contestation plus vaste, plus globale contre la colonisation génocidaire menée par le gouvernement israélien, comment ils espèrent faire émerger dans d'autres corps de métier et avec d'autres générations l'espoir de peser. Car comme le rappelle la journaliste palestinienne Bissan Ouda,
continuez parce que vous êtes notre seul espoir. Et nous promettons que nous tiendrons bon et que nous vous dirons toujours la vérité. Et s'il vous plaît, ne laissez pas leur violence vous effrayer. Ils n'ont pas d'autre choix que de vous faire taire et de vous terrifier parce que vous détruisez des décennies de lavage de cerveau. Image out of my heart when we've seen the bodies found in a mountain of parts. Netanyahu told you just another child of the dark. Clear it's gonna take much more than thousands to march, more than a speech, more than a poem, more than a track of music. Gonna take more than a sit down with Bassem Youssef, even bringing back ambassadors. C'était le 17e épisode de l'Actu des Oubliés. Merci de l'avoir suivi. Au doublage, c'était Amélie et Jerry. Pour plus d'infos sur nos sources, rendez-vous sur l'audioblog. En musique, vous avez pu écouter Ince Hall de Michael Moore, MC Abdul avec The Pen and the Sword et Palestine Will Never Die de Loki. Pour la Palestine, un appel international à mobilisation circule pour le 8 juin. D'autres suivront.
Prenez soin de vous et à bientôt.
Israel is a terror state, terrorists that terrorize. I testify, my television televise, I'm telling lies. This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Palestine. They're not prepared to face the pain, so they're scared to say your name.
From the river to